Vierge est cité un certain nombre de fois. Il y a même une souveraine qui porte le nom. Jésus dans le Coran est plus important que Mahomet. Pourquoi c'est important? Mahomet dans le Coran. Et il est cité 4 fois.
Sinon, Jésus est appelé la parole de Dieu, descendue de Dieu sur Marie, et un esprit émanant de lui. Ça ne s'est pas dit de Mahomet du tout. Donc le patriarche Chenouda, le pape Chenouda de Copte, quand les frères musulmans venaient lui poser des questions, il leur disait « sa mère est meilleure que sa mère. Son père est meilleur que son père. » C'est le père de Jésus dans le Coran, c'est l'Esprit Saint. En fait, ce n'est pas très, très spécifié, mais ils disent « Jésus est la parole de Dieu descendue sur Marie. » Donc comment est-ce qu'il peut être plus important que lui? Ça, c'est une question qu'on peut poser aux musulmans. Maintenant, la Vierge, dans le Coran, est une femme qui souffre des douleurs de l'enfantement. Ça, ce n'est pas le cas de la Vierge d'après l'Église. C'est le cas de la Vierge d'après... Zeffirelli. Ce n'est pas le cas de la Vierge d'après la tradition de l'Église. L'Église dit que la Vierge n'a pas souffert des douleurs de l'enfantement parce que Jésus étant parfait, elle étant parfaite, ils n'ont pas les conséquences du péché qui sont la douleur. Dans le Coran, au contraire, elle souffre, elle crie et elle accouche sous un palmier. La Marie de l'Évangile, elle enfante dans une grotte à Bethléem, ou pas dans, c'est pas dans quoi, mais à Bethléem, et elle est honorée. Il y a Saint Joseph qui s'est dévoué pour elle, qui s'est dévoué pour le Christ, et c'est pour ça que personne n'a dit du mal du Christ. Alors que dans le Coran, le fils de Marie, Jésus fils de Marie, ou Issa fils de Mariam, est traité de bâtard. Ça, c'est pas du tout la même chose que chez nous. C'est très avilissant. Ce qui est très avilissant aussi, c'est que l'ange ne dit pas à la Vierge, l'ange chez nous dit à la Vierge, réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Là-bas, non, ce n'est pas pareil. Il lui dit, prosterne-toi, Marie, la tête en bas. C'est pas du tout... Le même esprit, ce n'est pas le même respect que dans le Coran, la divinité a envers Marie. Dans l'Évangile, Dieu respecte la Vierge, demande son consentement, et rien ne se fait sans son consentement. Dans le Coran, il y a un passage où elle est obligée, et il y a un autre passage, donc il y a les deux. Il y a un autre passage où il y a... possibilité qu'elle donne son mot à dire. Et il y a un endroit où il dit « la parole d'Allah est irrévocable ». Ce n'est pas ce que l'ange dit à la Vierge. Comme je vous dis, il l'honore. Il lui donne une place unique. Ensuite, la conception. Bon, chez nous, l'annonciation est l'incarnation du Fils de Dieu. Chez eux, l'annonciation, c'est juste l'annonce qu'un prophète va venir. En fait, il fait des miracles au berceau. Il a besoin de parler au berceau. Pourquoi? Parce que sa mère est traitée de prostituée. Comme je vous ai dit, elle n'est pas honorée. Elle est traitée de prostituée. Alors, l'enfant a besoin de parler pour dire « ma mère n'est pas une prostituée ». Il n'y a pas de Saint-Joseph. Donc là, ça fait toute la différence. Il n'y a pas l'humanité qu'il y a chez nous, cet amour de tout le monde. Saint Joseph qui a de l'amour, la Vierge qui a de l'amour, chacun qui par amour se dévoue, se donne. Il n'y a pas ça dans le Coran. Il y a l'idée que Allah s'impose, que lui, il veut, et quand il veut, ça se fait. Ensuite, il y a quelque chose qui est assez dégoûtant. Il y a le « وَنَفَخْنَا فِي الْفَرْجِهَا » ce qui se traduit par « et nous soufflons dans son vagin » pour concevoir le Christ. Ce n'est pas quelque chose non plus qu'on trouve dans l'Évangile. Dans l'Évangile, il dit « l'Esprit Saint te prendra sous son ombre ». Ce qui donne l'impression d'une conception spirituelle qui est devenue physique, mais qui s'est faite spirituellement. Dans le Coran, non seulement il y a cette idée que nous avons soufflé dans son vagin, et dans un autre endroit, l'Esprit Saint, ce qui est appelé l'Esprit Saint, se présente à elle, dit-il, comme un homme parfait. Le mot utilisé pour ceux qui sont arabophones, c'est Bachar. Il se présente à elle comme un homme parfait, et il lui dit, je viens te faire un enfant. Qu'est-ce que c'est que cette conception virginale? Ce n'est pas du tout la même chose aussi. Également, dans l'Évangile, il y a un endroit où Jésus annonce la venue de l'Esprit Saint en promettant de nous envoyer le Paraclet, c'est-à-dire le Consolateur. Les musulmans ont pris ce mot, ils ont piqué dans l'Évangile et ils ont dit ça s'applique à ça et ça s'applique à ça. Ils ont tout piqué partout, l'Apocalypse, etc. Et dans tous les passages, ils ont trouvé des choses dont ils ont décidé qu'elles leur convenaient. Et donc ça parle de ça. Dans le cas du Paraclet, c'est, paraît-il, Mahomet. Ils disent, le Paraclet, c'est Mahomet, c'est Muhammad. Et Jésus est venu l'annoncer. Donc il l'annonce en disant, je vous envoie le Paraclet. Également, ce n'est pas la même chose que dans la religion chrétienne. Ensuite, le personnage de la Vierge. Il y a ce personnage de femme en Orient qui est hyper important dans les religions orientales de tout temps. Non seulement la religion chrétienne, contrairement à ici où le personnage de la Vierge disparaît peu à peu. D'ailleurs, si vous allez à Notre-Dame de la Sagesse, à côté de la Bibliothèque nationale, vous voyez que l'architecte a fait l'église de façon à ce que la statue de la Vierge soit cachée par un pan de mur. C'est inadmissible, ça.
Qu'est-ce que je disais ?
La Vierge est importante en Orient.
Oui, la femme est importante en Orient. Il y a la Vierge, la déesse antique, la déesse mère, la Magna Mater, Astarté, Ishtar, Junon, toutes ces figures féminines qui sont l'antithèse de la Vierge, étaient extrêmement importantes en Orient. Et on l'appelait la Magna Mater. Et cette divinité et son paraître masculin, Baal ou Helios, se sont transportés dans l'Empire romain et Constantin et sa mère adoraient ces deux dieux. Ils n'adoraient pas Jupiter, Vénus, Mercure, etc. Ils adoraient les dieux phéniciens qui étaient les dieux de Baalbek. Dans le christianisme, il y a cette figure de femme qui est honorée, mais ce n'est pas du tout pareil. Parce que la différence entre la déesse et la Vierge, c'est que la déesse, elle vous dit « adorez-moi, je suis créatrice ». La Vierge, elle dit « adorez-le ». Ça, c'est toute la différence. Et le fait d'honorer la Vierge revient à honorer davantage celui qu'elle nous désigne. Quand on voit dans les statues de l'Immaculée Conception, celle de la rue du Bac, la façon dont elle tend les mains et le regard affectueux qu'elle a, c'est pas du tout une pose de déesse. Les déesses antiques n'étaient pas comme ça. Mais j'ai ouvert ce sujet pour dire que chez les musulmans, il y a cette figure de femme Donc, de l'Antiquité jusqu'à maintenant, il y a toujours cette figure de femme omniprésente, mais qui tantôt est une déesse, tantôt est une mère. C'est pas la même chose. Et la déesse antique, on la sent quelque part dans la figure féminine, ou les figures féminines du Coran. Il n'y a pas que la Vierge. Il y a Khadija, la femme de Mahomet. Il y a Fatima, la fille de Mahomet. Par exemple, Mahomet dit à sa fille, « Tu seras la maîtresse de toutes les femmes au paradis, y compris de la Vierge. » Donc, quand on vous dit « La Vierge est au-dessus de toutes les femmes chez les musulmans », ce n'est pas vrai d'après le hadith. C'est un hadith authentique de Bukhari, où Mahomet dit à sa fille, « C'est toi qui seras la maîtresse de toutes les femmes. » Excusez-moi, je suis fatiguée. Qu'est-ce que... Il y a quelque chose, il y a une nouvelle cérémonie qui est en train d'avoir lieu chaque année à la fête de l'Assomption, de l'Annonciation. Cette cérémonie vient du Liban, malheureusement. Le 25 mars, depuis quelques années, il y a un chrétien dans une école chrétienne qui a convaincu un prêtre jésuite et d'autres prêtres jésuites de faire dans le collège des jésuites, Notre-Dame de Jamhour, de faire une cérémonie mixte chrétienne et musulmane. Donc c'est présenté en France et ailleurs, c'est présenté comme étant un signe d'amour. Ce n'est pas de l'amour. Parce que l'amour ne consiste pas à se mentir mutuellement. L'amour consiste à vouloir le bien de l'autre. Si moi je veux le bien du musulman, pourquoi est-ce que je vais garder le Christ pour moi seul? Pourquoi est-ce que moi je vais être heureuse toute seule, puisque le Christ rend heureux? Pourquoi est-ce que je vais priver mon frère musulman de ce bonheur que moi j'ai? Il est vrai que je ne ferai pas son bonheur si je le force. Et sur ce plan, je suis pas tout à fait pour le prosélytisme, sauf quand on sent que la personne est proche, et qu'elle est proche, parce qu'après on peut avoir des réactions adverses. Mais je suis pour les pousser à faire ce que le Christ dit, c'est-à-dire des actes de charité, parce que le Christ dit que, dans l'évangile de Saint Matthieu, qu'au jugement dernier, iront au ciel ceux qui ont fait des actes de charité. Des actes de charité vrais, c'est pas des actes de charité pour la parade comme font les politiciens. Et si on arrive à pousser les musulmans à aimer leurs ennemis, c'est le meilleur moyen de leur ouvrir la voie du Christ. Parce que finalement, quand on fait des actes de charité, lui-même se rapproche de nous. Comme dans l'Évangile, il s'est rapproché lui-même de certaines personnes qui le cherchaient. Parce que finalement, quand on fait des actes de charité, on cherche le vrai Dieu qui est le Dieu de l'amour. Et lui, il se manifeste finalement et il donne la grâce de se convertir. Moi, il arrive que je parle à des musulmans du Christ, mais il faut absolument que je sente que je suis en terrain acceptable, parce que je ne veux pas entendre des insultes. Les insultes, pour moi, ça va, je suis habituée, mais pas des insultes pour le Christ. Non, je ne sais pas dans quelle mesure ceux qui m'écoutent sont de milieux, je suppose, très différents. Il est très important de savoir que c'est l'amour qui doit primer dans nos relations avec nos frères musulmans. Et il faut leur dire la vérité. Parlons de cette figure de femme. Il y a dans le Nouveau Testament, il y a dans le livre de l'Apocalypse, la figure de la femme dans les douleurs. Cette femme dans les douleurs est identifiée avec la Vierge. Bon, elle peut être identifiée avec la Vierge dans la mesure où la Vierge fait partie de ce peuple, mais dans l'Ancien Testament, si vous revenez au livre d'Isaïe, chapitre 28, c'est un peuple. C'est un peuple qui dit « Nous avons été une femme enceinte, nous avons été une femme enceinte qui criait dans les douleurs de l'enfantement, ainsi nous étions à tes yeux, ô Dieu. » Donc le peuple auquel appartient la Vierge, logiquement, c'est la Vierge finalement en tant que peuple, puisque finalement on est identifié à son chef, à son roi. Et de plus, la Vierge, d'après l'Église, n'a pas eu les douleurs de l'enfantement. Mais pour les musulmans, pour une partie des musulmans, cette femme, c'est Fatima, la fille de Mahomet. Je dois vous dire aussi autre chose d'assez dégoûtant, c'est que pour un nombre de musulmans, la Vierge serait la houri de Mahomet. Parce que les chrétiens, les chrétiennes et les juives, s'ils sont bons et qu'ils vont au paradis, ils doivent être les esclaves des musulmans au paradis. Donc chacun aurait des chrétiens et des juifs pour les violer au paradis. En fait, elles seraient consentantes. Et Mahomet, évidemment, aurait la meilleure qui serait la Vierge. C'est des choses vraiment dégoûtantes. Ça vous montre combien c'est différent. L'histoire de la houri n'est pas dans un hadith authentique, mais c'est une histoire que vous entendrez beaucoup si vous allez en Égypte. Elle court les rues en ce moment. Et ils s'en vantent dans les mosquées, surtout qu'ils veulent humilier les Coptes. Donc cette figure de femme, quand on n'arrive pas à avoir cette femme humble, qui aime, qui pousse à adorer Dieu, qui vous dit « c'est lui », quand on n'arrive pas à voir cette femme-là, on a la femme qui est la déesse. On se met à chercher, là où on la trouve, on la met. Donc Fatima, pour certains, serait cette femme dans les douleurs parce qu'elle est une figure importante. Puisque j'ai ouvert le sujet de la femme, il ne faut pas que je choque quiconque, je ne dis rien qui soit hétérodoxe, parce que je cite l'Ancien Testament. Et vous savez que c'est la Vierge de Guadeloupe, cette femme, que vous avez à Saint-Eugène d'ailleurs, qui est apparue. Je vais vous faire remarquer juste une chose. Dans la Vierge de Guadeloupe, c'est une femme enceinte, donc c'est la femme du chapitre 28 d'Isaïe et du livre de l'Apocalypse. Elle est donc enceinte et je ne sais pas si vous connaissez tous l'histoire, je vais raconter pour ceux qui ne la connaissent pas. À la Renaissance, quand les Espagnols sont allés au Mexique, il y a eu beaucoup d'exactions là-bas. Ils ont mis fin au sacrifice païen, mais en même temps, ils ont maltraité les Indiens. Ceux qui défendaient les Indiens étaient les missionnaires. Et les missionnaires étaient très mal vus par les autorités. Et un jour, ils ont vu arriver le moment où ils allaient être tous massacrés et tués au sommet des pyramides, parce que vous savez qu'on coupait le cœur et le prêtre buvait le sang de la victime. Et ils faisaient ça avec des dizaines de milliers de personnes. Et en un an, ils pouvaient en mourir une centaine de milliers, comme ça, pas égorgés, mais le cœur coupé de cette façon-là. Donc les chrétiens ont aboli ces sacrifices, mais le mauvais traitement que les politiciens faisaient subir aux indigènes préparait une révolution. Et en même temps, les chrétiens n'avaient pas réussi à convertir beaucoup de monde, 20%, parce qu'ils ne voulaient pas renoncer à la polygamie. C'est très dur dans les peuples où il y a la polygamie, c'est très dur d'y renoncer et de croire. En plus, si vous regardez leur art, ils ont des personnages tellement terribles, des serpents, c'est affreux l'art religieux mexicain. Donc venir leur parler d'un Dieu crucifié qui vous aime et qui est Dieu, ils ne vont pas y croire. Parce qu'il y a l'idée répandue parmi les hommes que c'est la puissance du mal qui est la plus forte. Mais un jour donc, la Vierge apparaît à un berger, Juan Diego, au Mexique. Et elle lui dit, bon, il lui demande qui elle est, il lui dit « je suis ta mère ». Et elle lui dit, je veux une chapelle ici. Où ça, ici? C'était sur la colline où on faisait des sacrifices à la déesse. Toujours cette figure de femme. On faisait des sacrifices. Vous voyez la différence entre ce culte-là et le culte de la Vierge Marie. On coupait la peau d'une femme enceinte. Le prêtre la portait et il faisait semblant d'accoucher. Et alors, le dieu du maïs pouvait naître. Ça aidait dans la déesse mère à accoucher, la déesse Coatlicue. Donc le Juan Diego va chez l'évêque, qui le fait attendre longtemps, c'était l'hiver, et Mexico c'est à 2500 mètres, c'est très froid. Et quand il lui dit, quand il lui demande de construire une église à la Vierge, il lui dit pas oui. Alors l'autre lui dit, mais quel signe vous voulez? L'évêque lui dit, elle sait. Ce que l'évêque avait demandé à la Vierge, il lui avait demandé des roses de Castille comme signe qu'elle l'exaucerait et qu'il n'y aurait plus que la mission pourrait continuer au Mexique. Donc Juan Diego lui dit oui, bon. Et il s'en va. Et il voit la Vierge sur la route. En fait, son oncle était mourant. Il change de route pour ne pas trouver la Vierge, pour aller chercher un prêtre pour son oncle. Et elle le suit. Elle lui dit, moi je m'occupe de tes affaires comme tu t'occupes des miennes. T'inquiète pas pour ton oncle, il est guéri. Et elle lui dit, monte sur cette colline et va chercher ce que tu trouves. Il monte sur la colline et il trouve toutes sortes de fleurs. Vous savez, au Mexique, il n'y a pas beaucoup de fleurs. C'est surtout des cactus. Et en plus, un 12 décembre, ça c'est pas facile d'en trouver. Il trouve plein de fleurs, y compris des roses de Castille avec de la rosée. Il les ramasse dans son manteau. Et il va chez l'évêque. Et quand l'évêque le reçoit, au bout de 2 heures, il était avec des gens. Il était avec un envoyé de l'empereur qui venait lui dire que non. L'empereur avait reçu son message et il allait intervenir. Donc quand l'évêque arrive, Juan Diego se lève et il ouvre son manteau et les fleurs tombent. Et l'évêque et celui qui était avec lui se mettent à genoux parce qu'ils ont vu une image, qui est l'image de la Vierge telle qu'elle est apparue à Juan Diego. Cette image a beaucoup de sens. Premièrement, vous remarquez qu'elle est debout sur un croissant. Croissant noir. À la Renaissance, le croissant noir avait un sens bien précis, c'était le croissant de l'islam. Également, elle est dans les douleurs, comme je vous ai dit, c'est le livre d'Isaïe et c'est l'Apocalypse. Et ce qui confirme que l'Apocalypse parle bien d'un peuple, c'est qu'au chapitre suivant, il est question de peuple et de nation. Et il va citer ensuite la ville de Jérusalem. En fait, il est en train, dans l'Apocalypse, de prendre plusieurs textes de l'Ancien Testament pour donner la place de chacun d'eux, pour nous faire savoir ce que chaque symbole veut dire. L'Apocalypse est le chef d'orchestre de tout l'Ancien Testament. Donc cette image de Guadeloupe est une prédiction. C'est la Vierge, c'est en même temps le peuple. Le peuple qui... Parlons pas de ce peuple, parlons de la Vierge. Contrairement à la déesse mexicaine, elle n'a pas l'air horrible. La déesse mexicaine a un air épouvantable quand on la représente dans les douleurs de l'accouchement. Et on la représente en train d'accoucher. Là, non, c'est simplement une femme qui a les mains jointes et qui regarde vers le bas, qui regarde humblement. Elle souffre de l'enfantement. Ce n'est pas dit dans l'image, mais l'image ne montre pas de la souffrance. L'image montre juste qu'elle est enceinte. Il y a ce bandeau. Dans cette image, à part les autres symboles de l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'elle est donc debout sur la lune. Donc, là, on comprend que la lune de l'Apocalypse, c'est le croissant, et elle est entourée du soleil. Maintenant, la lune, ça a toujours été le symbole des royaumes d'Orient. L'Empire d'Orient, l'Empire byzantin, le symbole était la lune, et le symbole de l'islam est la lune, vous le voyez au sommet des mosquées. Alors que le soleil était le symbole de l'Occident, le symbole de l'empereur romain, et le symbole au soleil, le pape, ce que vous voulez. C'est le symbole de ceux qui gouvernent durant le jour en supposant que l'histoire de la chrétienté, c'est une nuit et un jour. La nuit commence en Orient avec la lune, elle continue en Occident avec le soleil et où le christianisme est en plein jour. Donc cette femme enveloppée du soleil, elle est enveloppée de ce soleil-là qui serait, d'après ces symboles, qui serait... je ne vais pas plus loin. Toujours est-il, elle a la lune sous ses pieds et elle a des étoiles. Il faut dire que quand la Vierge demande qu'on l'appelle Guadalupe, qu'on lui donne le nom de Guadalupe, il y avait déjà un sanctuaire de Guadalupe en Espagne, qui était un des sanctuaires les plus visités d'Europe. Et cette histoire-là, c'était une histoire de statue de la Vierge qui était retirée de sous terre et qui émergeait. Et les Espagnols avaient pris ça comme une prophétie signifiant que le christianisme allait remonter de sous terre. C'était à l'époque où l'Espagne était sous occupation islamique. Alors la Vierge de Guadeloupe serait une prophétie dans un sens inverse. Je m'arrête là. Le tissu du manteau de Juan Diego aurait dû durer 40 ans maximum. C'est du cactus. Pourtant, un jour, quelqu'un a nettoyé le cadre avec de l'acide sulfurique. Il y a eu comme une goutte d'eau, c'est tout. Ce manteau a été traîné sur toutes sortes de malades. Il est toujours en bon état, après 450 ans, alors qu'il aurait dû être en poutre depuis 400 ans. Et qu'il est dans un endroit humide. L'endroit est tellement humide que la basilique s'est effondrée et qu'il a fallu faire des travaux pour la faire remonter. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a des musulmans pour qui cette image de Guadeloupe, parce qu'elle est l'image de l'Apocalypse, est une figure musulmane. Donc, quand ils vont dans les sanctuaires de la Vierge, ils vont pour une de deux raisons. Soit ils vont pour chercher cette femme, soit ils vont parce qu'ils sont attirés par notre Dieu. Il n'y a pas une troisième raison en général. Ou ils vont par curiosité. Mais il y en a qui vont pour chercher leur figure féminine, et il y en a qui vont pour chercher le Christ à travers la Vierge. Je sais pas, c'est pas tout à fait l'islam, mais je voudrais faire une comparaison entre l'apparition de Guadeloupe et celle de la rue du Bac. Dans les deux cas, c'est une femme qui regarde vers le bas. Ah, l'histoire de Guadeloupe, elle a converti les Mexicains parce qu'elle a fait un miracle dès le premier jour, où on l'a transportée pour la mettre dans une chapelle. Elle a ressuscité un Mexicain qui avait été tué par une flèche. Et c'est là que les Mexicains ont vu que finalement, ce Dieu qui poussait à aimer et à souffrir, même si on était insulté, accepté, préférait souffrir que faire du mal, pas nécessairement souffrir, parce que finalement, il y a beaucoup de joie à aimer Dieu. Mais ça peut comporter de souffrir au cas où on trouve des gens qui n'aiment pas Dieu, qui ne nous aiment pas. Donc cette loi d'amour que les Mexicains n'acceptaient pas, ils ont découvert sa puissance par les miracles qu'a fait cette toile, qui était le manteau de Juan Diego, qui existe encore, et on voit la couture. Et elle continue à être vénérée. Donc la Vierge de la rue du Bac, c'est un message un petit peu différent. Comme là-bas, la Vierge pouvait être comparée avec la déesse païenne, la Vierge de la rue du Bac, moi je pense qu'elle peut être comparée avec le symbole hitlérien, qui est une antithèse. Parce que dans les deux cas, vous voyez l'aigle hitlérien, il a ses griffes sur le globe terrestre, elle a ses pieds sur le globe terrestre, pas des griffes. Et dans les deux cas, il y a des rayons. Lui, il sort des rayons de ses ailes, elle, il sort des rayons de ses mains. Lui, il regarde avec un air de haine, elle regarde avec amour vers le bas. Et si vous faites les échanges, vous avez à la place de l'aigle, vous avez le serpent. Donc, si vous imaginez que c'est le même sens, l'aigle qui est agrippé au globe terrestre, remplacez-le par le serpent, vous avez dans l'image de la rue du Bac la Vierge qui est debout dessus. En fait, c'était pour dire, le symbole de tout ça, c'est le retour de l'idolâtrie. Le serpent étant le symbole des dieux païens, de tous les dieux païens dans toutes les mythologies. Et le symbole de cette figure de femme quand elle n'est pas la Vierge. Et quand elle est la Vierge, au contraire, elle l'a sous ses pieds. Ça, c'est une des différences principales. Au moins sur, pas seulement l'iconographie, c'est l'histoire que le serpent est un emblème du mal pour l'humanité, pour toute l'humanité. Le bébé a peur du serpent. Montrer un serpent à un bébé, à un enfant, si un enfant le voit en rêve, s'il le voit à la télévision, il en a peur. C'est parce qu'il y a quelque chose d'inné en nous qui nous fait peur, parce qu'on sent que c'est un symbole du mal. Donc avoir ce symbole sur le globe terrestre veut dire que c'est fini. Dieu est mort à l'échelle de l'humanité. Et c'est l'époque à laquelle ils ont commencé à parler de la mort de Dieu. Dieu ne meurt pas dans son être, mais il est tué par les hommes. Donc il a été tué une deuxième fois à travers sa parole. Ça, c'était un peu après la Révolution, si vous vous rappelez. Et l'idée de la mort de Dieu, ils étaient deux. Sur la médaille miraculeuse, on a les deux cœurs. Et on a le M sur la croix sur le M. Et là, un a été tué, il reste le second. C'est pour ça que depuis, on voit tout le temps la Vierge. En tout cas, le temps de la conversion des musulmans n'est pas loin. Il y a un mouvement extraordinaire dans ce sens en Orient. Ça se compte par millions. Ce n'est pas un, deux, trois, non. Ici, il y a beaucoup de chrétiens qui se convertissent à l'islam, mais là-bas, les meilleurs éléments deviennent chrétiens. Ils sont extrêmement nombreux. Ils sont très zélés. Vous pouvez savoir que même dans le Hezbollah, il y a des gens convertis. C'est un mouvement qui, pour le moment, est souterrain, qui ressemble au mouvement des premiers chrétiens. Et là, la figure de la Vierge peut faire une transition entre le moment où elle était une déesse, parce que c'est quoi la déesse ? La déesse, c'est celle qu'on honore sans raison, sans qu'il y ait un but. La, La Vierge n'est pas une déesse dans la mesure où, si on l'honore, c'est parce que c'est pour ce qu'elle a fait. Et c'est pour honorer Dieu. Il y a des gens qui disent que si on prie la Vierge, il y a même des catholiques qui disent que si on prie la Vierge, on fait du mal à Dieu. Et ça, c'est très musulman de dire ça. Si vous priez la Vierge chez les musulmans, si on sait que vous avez prié la Vierge, si vous êtes musulman, il y a de quoi vous tuer. Si un musulman prie la Vierge vraiment. Parce que, justement, il n'y a pas cette idée que... Il y a cette idée que leur Dieu, il est jaloux. Le Dieu de l'Ancien Testament chez nous, il n'est pas jaloux pour lui-même. Il est jaloux pour l'innocent. Il est jaloux, c'est-à-dire il veut que sa loi à lui seul soit respectée. Et il veut qu'on ne fasse pas de mal aux autres. Les autres dieux, ils sont jaloux, c'est-à-dire interdit que tu parles avec quelqu'un d'autre que moi. Mais dites-moi, quand on va chez un président et qu'il y a sa mère, on salue sa mère. Qu'est-ce que c'est que ce président ou ce roi dont on méprise la mère? Sur ce plan, les musulmans honorent la Vierge, mais c'est des paroles. Le summum chez eux, c'est vraiment Mahomet. Alors, et comme je vous ai dit, on peut essayer avec la figure de la Vierge, petit à petit, de leur faire connaître le Christ, le vrai Christ, et pas celui de l'Évangile. Celui de l'Évangile n'est rien. Et il est moins que la Vierge. Le Christ dans les... pas de l'Évangile, du Coran. J'ai fait un lapsus. Le Christ du Coran n'est rien. Le Christ de l'Évangile, c'est autre chose. Le Christ du Coran, il est un prophète qui n'est pas aussi important que Mahomet et qui est chargé d'annoncer Mahomet. C'est pour ça que quand la shahada, c'est-à-dire la profession de foi islamique, revient à dire « Il n'y a de Dieu qu'Allah » et Mahomet est le prophète d'Allah. Il n'y a de Dieu qu'Allah ou Dieu, on est tous d'accord. Mais là où ça vient, Mahomet est le prophète d'Allah, si Mahomet est le prophète de Dieu, ça veut dire que Jésus est l'inférieur de Mahomet. Donc Mahomet est mis au-dessus de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Ça, c'est la conséquence de la shahada. Il y a encore quelque chose que je voulais dire sur la Vierge. Vous savez que les musulmans souvent bénéficient de miracles à Lourdes. Vous savez ça? Oui, il y en a eu l'année passée ou l'année d'avant. Et souvent, ils se convertissent. Et au Liban, sur les tombeaux des saints comme Saint Charbel, il y a beaucoup de musulmans qui sont guéris. Ils sont très généreux envers... ils pratiquent l'hospitalité, les saints. Je pense que j'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a quelque chose où je vous ai choqué, n'hésitez pas. Je ne sais pas.
Qui est Saint Charbel?
C'est un saint libanais qui fait des miracles très nombreux, au point que l'année passée ou l'année d'avant, il y en avait 60 constatés scientifiquement. Il y a des musulmans miraculés par Saint Charbel. Il y a un autre saint, Nanam Tal Hardini, qui a été canonisé il n'y a pas très longtemps. Et il y a une histoire jolie. Oui, il y a une femme druze qui était allée à son tombeau. Donc ils vont au tombeau des saints parce qu'il y a des miracles. Ils ne vont pas parce qu'ils y croient. Ils y croient après. C'est comme la femme cananéenne qui allait chez le Christ... le supplier de guérir sa fille parce qu'elle savait que lui, il guérit. Mais après, une fois qu'elle a reçu la grâce, donc une femme druze avait perdu plusieurs enfants. Elle avait son enfant mort et elle est allée au tombeau de Saint Hadini ou Saint Namtallah et elle s'est endormie en pleurant et elle a laissé le bébé. Arrive un prêtre, moine, qui lui crie dessus et qui lui dit « Qu'est-ce que tu as, femme, à dormir? Tu n'allaites pas cet enfant, il a faim ?» L'enfant pleurait. Et il avait été ressuscité. Donc on a des miracles comme ça qui arrivent avec des non-chrétiens. Il y a un sanctuaire de la Vierge, le Chouette, où les musulmans tiennent à prendre les chrétiens là-bas pour leur prêter serment. Ils savent que si un chrétien prête serment à Béchouette, devant la Vierge de Béchouette, il n'oserait pas être renégat parce que la Vierge le frappera. La Vierge s'assure qu'on ne mentira pas en son nom, en tout cas là-bas. Vous savez, il y a tellement de sanctuaires de la Vierge et chacun a son histoire, chacun a ses miracles. Et les miracles, en fait, ont été la cause des conversions des peuples. C'est pour ça qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, il peut y avoir des conversions. Du jour au lendemain, la France peut connaître ça. Pourquoi en Orient, il y a tellement de conversions? Parce que beaucoup de gens sont horrifiés par Daesh. Parce que Daesh cite le Coran. Ils vont voir, ils voient que c'est vrai. Ça les horrifie. Et en même temps, ils voient la figure du Christ qui est tellement aimable, et la figure de la Vierge. Et là, c'est vraiment le Christ et la Vierge de l'Évangile qu'ils aiment. Et souvent, ils sont convertis et ils sont convertis sans baptême, sans être baptisés. Il y en a qui meurent sans être baptisés. Parce que l'Église les fait attendre, elle ne leur donne pas facilement le baptême. Moi-même, j'ai pris une musulmane pour la faire baptiser. On n'a pas obtenu le baptême. Alors que de l'autre côté, il suffit que vous disiez « Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet est l'apôtre d'Allah » pour devenir musulman. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Une conversion partout,
dans tout le monde musulman, en tout cas dans tout le monde arabe. En Afrique du Nord, en Égypte, au Liban bien sûr, en Syrie, en Irak, en Arabie Saoudite. Bon, il y a beaucoup qui passent par le stade de l'athéisme. Il y a beaucoup qui deviennent athées. Et ils sont tellement nombreux à être athées en Égypte, qu'il est question de promulguer une loi châtiant l'athéisme. Et vous en avez plus d'un million. C'est beaucoup, un million d'athées. Mais comme je vous dis, c'est un chemin que vous faites. Je ne sais pas si vous avez connu le cheminement de René Girard. Moi, j'ai parlé longuement avec René Girard. Il m'a raconté sa vie. Il m'a dit qu'il était sartrien et qu'il s'est converti quand il a étudié les mythes païens. Comme maintenant ces musulmans se convertissent quand ils découvrent le Coran, lui, il s'est converti en étudiant les mythes païens, parce qu'il était professeur de grec et de latin, et donc il travaillait sur la mythologie. Et il a remarqué que c'était des histoires qui ressemblaient au lynchage qu'il voyait, lui, aux États-Unis. C'était avant le mouvement des droits civiques, et il était professeur aux États-Unis. Et c'était également très semblable à l'histoire de la Passion du Christ. Mais la Passion du Christ avait l'air vraie, elle sonnait vraie, tout était vrai, c'était humain, psychologiquement vrai. Alors que les mythes disaient que c'est la foule qui est innocente et la victime qui est coupable. L'Évangile dit le contraire et tout l'Ancien Testament dit le contraire. Et tous les sacrifices de Moïse disent le contraire. Si vous voyez tous les sacrifices de Moïse, c'est des images de la persécution. Parce que toujours l'animal est innocent. Et c'est toujours des animaux qui doivent être purs. Si l'animal a tué, il devient impur, il n'est pas sacrifié. Les animaux purs, c'est les animaux qui ne font pas de mal, qui ne se vengent pas, qui donnent. Et c'est des images du Christ dans la Passion, mais c'est aussi des images des prophètes. Et toujours, donc, l'animal sacrifié représente l'innocence. Et celui qui l'a sacrifié doit se purifier avant. Et après, dans certains cas, il se purifie après aussi. Donc il s'est rendu impur en faisant ce crime-là. Donc c'est des images de crime. C'est pour ça que pendant la Passion, beaucoup de Juifs se sont convertis en voyant combien le Christ pouvait être identifié à ces animaux. Et c'est pour ça qu'après, les sacrifices animaux devaient être abolis, sans que l'Ancien Testament soit aboli. C'est pour ça que Jésus a dit que la loi de Moïse ne passera pas et qu'elle ne sera pas abolie, parce qu'en fait, c'était des images de la Passion une fois accomplie, et il n'en était plus besoin. Donc dans l'Ancien Testament, c'est l'innocent qui est persécuté. C'est la foule, elle est coupable. En général, ce n'est pas systématiquement, mais c'est très, très rare une foule qui soit innocente. Et donc ça a converti René Girard, parce qu'il s'est aperçu que c'était vrai ce qu'il disait. Que quand vous voyez des foules, des mouvements de foule, ce n'est pas des mouvements innocents en général. Parce que ceux qui pressent sur le public en général, ce qui influence, c'est le mal. Ce qui fait pression, ce qui pèse. C'est pour ça d'ailleurs que dans les défilés de mannequins, ils ne vont pas vous amener des femmes avec un air angélique. Ils vous amènent des femmes qui vous regardent en vous toisant, qui ont l'air méchant, qui se donnent un air méchant. Elles ne sont probablement pas méchantes comme ça. Et s'ils vous mettent un portrait, un buste dans un magasin de vêtements pour hommes, ils vous mettront Voltaire, ils ne vous mettront pas le Sacré-Cœur. Je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça. Donc il y a un mouvement très important, il est essentiel de prier pour eux. Il est essentiel surtout de... Je ne sais pas qui n'est pas musulman, qui est chrétien ici, mais même les musulmans qui deviennent chrétiens, il est très important de les aimer. Aujourd'hui, quelqu'un me disait que les chrétiens en France, ou en général, ne voulaient surtout pas que les musulmans soient des leurs. Soit ils disent ils ont raison, soit ils disent ils ont tort, mais il n'y a pas l'idée qu'ils ont tort, mais nous voulons les aimer. En fait, on n'est pas chrétien si on n'aime pas l'étranger. L'étranger dans la Bible, c'est celui qui n'a pas la même religion que le peuple de Dieu. Donc quand il dit tu aimeras l'étranger comme toi-même, dans le livre du Lévitique, ça veut dire tu aimeras celui qui n'a pas la même religion que toi, s'il vit avec toi. Ça ne veut pas dire qu'en cas de guerre, on n'est pas obligé de combattre. Mais celui qui vit avec toi, il doit être comme toi. Sans que tu te laisses influencer par lui. Il y a encore des questions ?
Tout à l'heure, vous avez bien dit que pour les musulmans, Saint-Joseph n'existait pas, n'a pas existé.
Il n'y a pas de Saint-Joseph chez les musulmans. Dans le Coran, il n'y a rien de tel.
Et vous avez bien dit que pour les musulmans, donc la Vierge Marie était considérée comme une prostituée.
C'est dans le Coran.
Pourtant, on l'aime, non ? Certains musulmans.
Elle est accusée de prostitution.
Ah, d'accord.
La famille de Marie. Bon, je vous dis le texte ce qu'il dit. Il dit les douleurs la prirent sous un palmier. Alors sa famille lui dit. Comment Marie, nous ne t'avons pas connue comme une prostituée. Le mot est utilisé. Alors l'enfant dit, l'enfant se met à parler, non, c'est je suis Jésus fils de Marie. Et il dit que sa mère n'est pas une prostituée. Donc il reçoit le don à la parole juste pour défendre sa mère. Il n'y a pas de Saint Joseph dans le Coran. Pardon ? Il y a Joseph, pas Saint-Joseph, il y a Joseph le patriarche qui est un saint aussi, mais c'est le patriarche de l'Ancien Testament, Joseph vendu par ses frères. Il n'y a pas Saint-Joseph du Nouveau Testament. Il n'y a pas l'époux de la Vierge Marie. Dans l'Évangile, la Vierge Marie n'est pas mariée.
Voilà, on le dit par morceaux. Donc, le bon Dieu a prévu que la Vierge Marie soit mariée pour qu'elle ne, justement, n'ait pas la difficulté d'être considérée comme une femme qui a eu un enfant hors mariage. Et Joseph, lui, qui sait qu'il n'est pas le père de l'enfant, dans cette très grande sincérité qui, justement, a touché René Girard, on n'a pas honte de décrire le trouble qu'a eu Saint Joseph, puisqu'il était dans la première étape du mariage en Orient. Il y a les fiançailles ne sont beaucoup moins négligeables qu'en Occident. C'est un pré-mariage. Il y a deux étapes, en tout cas du temps de notre Seigneur. Et donc, lorsqu'il y avait la première cérémonie, on considérait qu'ils étaient quasiment mariés. Et or, Joseph, qui n'avait pas encore reçu son épouse, sa promise chez lui, la voit enceinte. Donc il est perturbé, puisqu'il... On lui a, les, on, la, la tradition dit que c'est un homme du temple, d'un homme de Jérusalem qui les a mis en présence parce que elle avait consacré sa virginité à Dieu, ce qui était très mal connu, compris à l'époque. Donc un saint homme, probablement un prêtre du temple de Jérusalem, a trouvé Joseph parce qu'il avait une réputation de sainteté et que il allait respecter son vœu. N'oublions pas que la Vierge Marie dit à l'ange, moi, je n'aurai pas d'enfant. Hein. Il dit, comment cela se fera-t-il? Car je ne connais point d'homme, hein, dans la Sainte Écriture.
Et donc, je ne connais pas et je ne vais pas
connaître. Et je ne vais pas connaître, parce qu'elle sait très bien comment on fait un enfant. Et donc, Saint Joseph savait qu'il devait respecter son épouse. Mais de la voir enceinte, alors là, il ne comprenait plus. Et il résolut en secret, troublé comme il était, mais étant persuadé qu'il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas, qui dépassait sa pensée, de la renvoyer en secret, de la répudier en secret. Et là, Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, est un parallèle par rapport à Joseph le patriarche, qui interpréta les songes. Et bien, Saint Joseph, lui, n'a de message de Dieu qu'en songe, endormi. Et pendant son sommeil, l'ange du Seigneur lui dit « Prends la Vierge Marie, et l'enfant qui est né est né de Dieu, n'aie pas de crainte et prends-la. » Et à son réveil, il est apaisé et il la prend chez lui. Eh bien, dans le Coran, malheureusement, comme il n'y a pas cette délicatesse de Dieu que de donner un père adoptif et putatif à l'enfant Jésus, ce qui fait que tout le monde considère que ben, c'est l'enfant de Joseph, eh bien, il n'y a pas la figure de Saint Joseph. Donc la Vierge Marie est enceinte, seule. Comme dit la chanson de Jean-Jacques Goldman, elle a fait un enfant toute seule. Mais à l'époque, je peux vous assurer que c'est la lapidation assurée. Donc, la famille de Marie, dans le Coran, lui dit, nous ne savions pas que tu étais une prostituée. C'est-à-dire que d'avoir des relations hors mariage, c'est inimaginable. Et dans le Coran, à ce moment-là, on invente le fait que l'enfant Jésus, qui est dans ses bras, parle et défend l'honneur de sa mère. Et voyez-vous, je crois aussi que dans les études qui ont été faites historiques, les premiers musulmans ont été très sensibles au nestorianisme. Et ils ont été très sensibles aussi à certains évangiles apocryphes. Et donc, ils ont pris de l'esprit de l'évangile apocryphe certains passages où l'enfant Jésus parle bébé, ou fait des miracles bébé, par exemple, il tue un de ses petits camarades et il le ressuscite. Non, il prend un oiseau en argile, il fait un petit oiseau en argile et il lui donne la vie.
Oui, mais ça, c'est un attribut divin, hein? De souffler dans de la glaise et de lui
tout
donner...
Tout à fait, mais c'est... ça fait partie d'évangiles qui ont été écrits par des Ariens.
Mais c'est dans le Coran.
Et c'est dans le Coran aussi, voilà. Et ça, c'est un emprunt aux évangiles apocryphes. Typique, voyez.
Dans le Coran, il dit que Dieu fait Moïse, fait Adam, il souffle en lui, il lui donne...